Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous pour la prochaine heure où on va plonger dans différentes sphères associées au 9e art. Comme c'est à notre habitude, c'est le concept même de l'émission après tout. Alors cette semaine, on va y aller un peu en deux temps. Donc, dans un deuxième temps, il y aura Stéphane Gravel qui sera de passage pour son mois en BD. Un mois en BD qu'il a consacré à des lectures autour de l'Amérique, autour des États-Unis, entre documentaires, faux documentaires et récits de fiction. On va passer tout ça en revue en sa compagnie tout à l'heure. Et en première partie, on va plutôt aller vers le Québec et notamment la Gaspésie avec l'album Bière dessinée, donc premier d'une série qui est proposé par les éditions Sawin, où la bande dessinée devient un peu un guide touristique, un guide gustatif sur les routes du Québec. Alors, on va faire un peu la tournée du projet, de sa genèse et de sa réalisation en compagnie de son auteur, Nick Michaud. Ce sera dans quelques instants. Et avant de se lancer vers les entrevues, je m'en voudrais de ne pas mentionner que l'album La Bombe a obtenu le prix de la critique ACBD de la bande dessinée québécoise. Donc l'ACBD, l'Association des critiques et journalistes de bande dessinée, qui a décerné ce prix un peu plus tôt cette semaine à cet album du dessinateur québécois Denis Rodier et des scénaristes franco-belges Didier Alcante et Laurent-Frédéric Bollé. L'album est disponible chez Glénat. Et on dit, et je cite le communiqué de l'association, que par ce prix, l'ACBD souhaite ainsi reconnaître le travail exceptionnel du Québécois Denis Rodier dans la réalisation des 441 planches de l'album, aux côtés d'un scénario solide et richement documenté du Belge Didier Alcante et du Français Laurent-Frédéric Bollé. Le dessinateur y offre un travail en noir et blanc achevé, appuyé sur une mise en scène variée et dynamique qui se place au service d'un récit historique, scientifique et politique dans lequel se trouve également une grande humanité. Alors, La Bombe a été choisie, je ferme la citation à ce moment-ci, La Bombe a été choisie par un vote des 96 membres actifs de l'association. Il y avait trois autres ouvrages finalistes pour ce prix ACBD de la bande dessinée québécoise, c'est-à-dire le projet Chiatsung de Brigitte Archambault, Paul à la maison de Michel Rabagliati et C'est comme ça que je disparais de Myrion Mal. Alors, félicitations à Denis Rodier pour cette récompense. On plonge maintenant vers un album qui s'appelle Bière dessinée, un album qui est également l'amorce d'une série. C'est du côté des éditions Sawin, évidemment, premier tome qui nous amène dans un parcours brassicole des microbrasseries de l'Est du Québec. Un deuxième tome qui s'en vient également, qui nous amènera plutôt dans la grande région de Québec, toujours à la découverte des microbrasseries. Donc, ça fait quand même plusieurs mois, on est en mode rattrapage, que Bière dessinée est sortie, mais on avait envie de vous en parler et en même temps, on est un peu à la croisée des chemins puisqu'il y en a un autre qui s'en vient de toute façon. Alors, on explore donc l'univers des bières et de la bande dessinée avec Nick Michaud, donc des éditions Sawin, qui est auteur de cet album-là. Nick, salut!
Salut Raymond!
Et évidemment, en fait, on a vu un peu au fil de ton parcours, pour ceux qui te connaissaient d'avant Sawin ou même au début de Sawin et encore aujourd'hui, tu es un fan de métal. Tu t'es illustré un peu à travers justement ton travail de dessin autour de ces univers-là. C'est un peu ce qui t'a amené aussi par la suite vers la bande dessinée ou la bande dessinée qui t'a amené vers cette volonté-là pour pratiquer, pour explorer, pour t'exprimer visuellement. Mais en parallèle, j'ai l'impression qu'avec Bière dessinée, on découvre aussi une autre des passions de Nick Michaud, qui est la bière, qui est la microbrasserie. Et c'est presque un apprentissage que tu fais aussi à travers Bière dessinée, ton apprentissage à toi d'amateur de bière.
Oui, tout à fait. Même ça fait des années que je bois de la bière de microbrasserie. Je reste quand même un noob dans le domaine. Et j'ai beaucoup appris avec cet album-là aussi. C'est ça qui est le fun, c'est toujours apprendre et... faire découvrir des choses aux gens grâce à cet album-là. Et bref, c'est un monde fascinant, la bière. C'est même, je peux te dire, c'est un monde similaire à la BD parce que chaque brasseur est un artiste aussi et sa façon d'interpréter sa bière et tous ses breuvages.
Oui, en fait, il y a ses ingrédients, il y a sa méthode de fabrication, puis il y a quand même beaucoup de possibilités qui sont offertes là-dedans, ce qui fait qu'il y a un monde de saveurs. Une fois qu'on plonge là-dedans, je veux dire, on n'en sort plus. Là, c'est...
Ah non, et on en découvre toujours. Il y a 5 ans, il y a des bières qu'on ne voyait pas dans les microbrasseries, que là, on voit, les sours sont vraiment rendus populaires, les smoothies. On voit que les brasseurs s'amusent aussi, là, c'est... dans leur style, et c'est le fun, c'est riche comme univers comparativement à 25 ans qu'on J'achète-tu de la Bud ou de la Molson?
Oui, exact. Puis après ça, ça permet, pour moi, c'est un peu des portes d'entrée. Du moment où tu commences à plonger là-dedans, à explorer, c'est impossible que tu n'en trouves pas qui vont cadrer avec tes envies, avec ta palette personnelle. Donc, c'est un bel univers à explorer. Puis j'imagine que c'est un bel univers à partager aussi, parce qu'à un moment donné, il y en a tellement qu'on finit par se perdre, par plus savoir qu'est-ce qu'il y a, par pas toujours allumer qu'à côté de chez nous, quand on va aller voyager, il y a telle option qui vont s'offrir aussi.
Oui, tout à fait. Dans Bière dessinée tome 1, ça se passe en Bas-Saint-Laurent, Gaspésie. Et les gens connaissaient la Gaspésie par sa beauté et tout ça. Là, ils découvrent à nouveau la Gaspésie par son monde brassicole qui est incroyable. Et ça a vraiment développé les goûts des Québécois, les microbrasseries côté bière. Et c'est le fun. Moi aussi, il y a des bières que je ne buvais pas non plus il y a 10 ans. Ma première IPA que j'ai bu, je fais « Ah, qu'est-ce que c'est ça? » Fait que c'était vraiment amer. Et au fil du temps, j'adore ça. Là, aujourd'hui, là, j'en bois énormément. Je vais en boire plus qu'une, puis c'est bien parfait. Là. Pareil pour les sour aussi. C'est la première fois qu'on boit ça, c'est « Ah, qu'est-ce que c'est ça? » Et on développe notre palette et c'est comme ça qu'on découvre le monde aussi de brassicole, de la bière.
Et toi, tu avais un intérêt pour ce monde-là et à un moment donné, comment ça s'est placé un peu Bière dessinée? De ce que j'ai compris, c'est Dominique Fortier de Lexis Media et toi qui avais comme une discussion qui a débouché dans le fond sur ce qu'allait devenir Bière dessinée.
À la fabrique de Matane, moi je suis revenu dans mon coin de pays, dans l'est du Québec et... Là, il m'a parlé d'un projet de dessin qu'on pourrait faire et c'est justement la fabrique que là, ça fait « OK, on peut parler des microbrasseries ». C'est supposé d'être juste un projet qui passait dans les journaux. Alexis Media gère tous les journaux de la Gaspésie et Bas-Saint-Laurent. Mais là, avoir les microbrasseries intéressées à embarquer dans le projet, fait bon, « on va en faire un album, j'ai une maison d'édition de BD ». Fait qu'on va même rajouter plus de pages pour la microbrasserie. Et compter plus de choses aussi. Et me voilà avec le tome 1. J'ai passé mon hiver au complet à travailler là-dessus. C'était bien chargé comme horaire.
Donc au départ, c'est un projet qui était pensé pour le journal. Donc on s'est dit, OK, une structure, une planche, un espace, une page de journal. Puis à un moment donné, c'est à quel moment justement? C'est assez rapidement, donc de ce que j'en comprends, on se dit, OK, il y a trop de stock, on ne peut pas se limiter à ça. On va explorer le côté album.
Oui, c'est ça. Il y a une page qui mentionne où c'est que c'est, à quel endroit c'est. Il y a une autre planche que c'est sur leur bière, leur type de bière. Dans le fond, bière dessinée, c'est pour les gens qui veulent découvrir les microbrasseries. S'ils voient leur type de bière qui fit avec leur goût, ben ils vont faire « Ah, je vais arrêter là absolument ». Et c'est comme ça qu'on a rejeté de la viande autour de là, ce côté... histoire et la microbrasserie et qu'est-ce qui se trouve autour aussi, pas juste la microbrasserie, mais les commerces autour. Fait que c'est vraiment le fun pour ceux qui veulent visiter la place.
Oui, mais en fait, c'est un peu comme ça que j'ai perçu Bière dessinée. Je me suis dit, c'est un album qu'on achète avec un objectif. Dans le fond, on l'achète parce qu'on est en Gaspésie puis qu'on a envie de faire la tournée des bières, de découvrir les bières de notre coin, ou parce qu'on va aller en Gaspésie puis qu'on a envie d'avoir, dans le fond, une assise pour faire cette exploration-là, mais sans tomber justement dans le guide de voyage, sans tomber dans les guides de recommandation, d'avoir quelque chose qui est dans un autre style complètement, qui est une bande dessinée aussi.
Ça l'a emmené aussi des objectifs. Les gens qui n'étaient pas supposés aller en Gaspésie ont été grâce à cet album-là. Cet album-là est sorti en pleine pandémie. Les gens étaient déprimés, puis tout ça. Ils ont lu ça. C'est un album léger, qui est le fun, qui fait voyager. Et en fait, OK, il faut vraiment que j'aille en Gaspésie, il faut que j'aille m'éclater un peu. Puis ça a été vraiment le cas pour l'été parce qu'il y a eu énormément de gens en Gaspésie.
Oui, c'est clair que pour la première été de confinement, là, l'été 2019, ça a été la folie dans la Gaspésie, effectivement. C'est... Et Nick, en fait, si on parle de ta démarche là, d'emblée, donc tu as été rencontré, tu as discuté avec chacune des microbrasseries, chacune des fondateurs, des propriétaires de l'ensemble des microbrasseries qui sont répertoriées dans l'album. Là.
Oui, ça, c'est une partie très fun de l'album parce qu'on va écouter les histoires des gens, ils vont goûter à leur bière, donc c'était très fun aussi. Et ils nous visitent, ils nous montrent les installations, c'est incroyable de voir les installations chacun comment c'est fait, chaque micro aussi comment c'est construit, chacun a leur palette de couleurs, puis tout ça. Fait que chaque monde, c'est un monde pour chaque microbrasserie. D'ailleurs, dans Bière Dessinée, chaque microbrasserie a leur palette de couleurs, fait que parce que c'est quoi différent à chaque. Et oui, c'est ça. Fait que j'ai tout rencontré, des gens bien sympathiques, des gens bien passionnés. J'ai appris beaucoup que c'est pas toujours facile, le monde. Des fois, ça a l'air facile. Oh, je fais ma bière, l'argent rentre, puis c'est tout. Non, c'est une bonne gestion. Puis tu peux pas te permettre l'erreur non plus. Tu fais une mauvaise bière, ça va en découler pour longtemps. Un auteur de BD qui fait un mauvais dessin, bon, qui, les gens vont passer à côté, ils vont lire l'autre page qui est correcte, mais une bière, elle peut pas être mauvaise. Ils peuvent pas se permettre ça. Donc, il faut vraiment qu'ils soient assidus dans leur travail.
Oui, puis j'imagine même juste en termes de s'organiser, de choisir l'endroit où on s'installe, les ingrédients, les saveurs, il y a, j'imagine, une grosse réflexion un peu là-dedans. Et tu disais, dans le fond, c'est des parcours qui sont, les gens que tu as rencontrés, des parcours un peu similaires, mais en même temps très différents également.
Oui, tout à fait. Ben, chacun fait sa IPA, chacun fait sa ghost, chacun. Et c'est différent. Certaines ghosts sont meilleures que d'autres. Des fois, il est meilleur dans une ghost, des fois, il est meilleur dans une IPA, meilleur dans une stout. Fait que chaque brasseur a leur façon à eux, mais chacun a leur spécialité aussi. Fait que c'est ça qui est le fun de découvrir.
Et puis est-ce que tu t'attendais à autant de variétés, peut-être avant de commencer ta tournée, avant de commencer ton enquête, ta recherche, cette variété-là dans les installations, dans les couleurs, dans la mise en marché, dans les saveurs, dans les approches, dans la relation avec le produit?
Oui, il y en a qui sont des grosses microbrasseries, qui sont des installations incroyables, mais même là, une plus petite a un charisme incroyable qui fait OK, ça, je veux être ici, je veux prendre la bière ici au lieu d'un autre. Et chaque microbrasserie a leur charisme. C'est ça qui est le fun. Il n'y en a pas de maillon faible. Chacun a leur façon de produire. Et c'est ça qui est le fun pour le voyageur, parce qu'il y a tellement à découvrir. C'est pas tout le même. Oh, je vais dans un bar, je vais dans un autre bar. Et c'est comme je disais tantôt, c'est un monde différent à chacune.
Oui, puis ça, dans le fond, dans ton cas, ça évite aussi de tomber dans une certaine routine parce que tu finis par t'attendre aussi à certains passages obligés, mais t'es finalement, tu te laisses aussi surprendre parce que ben, finalement, les passages obligés ne sont pas ressentis ou vécus de la même façon d'une microbrasserie à l'autre, dans le fond.
Tout à fait. Et c'est sûr qu'il y a des valeurs qui reviennent. Beaucoup sont pour le local. Et ça, c'est des valeurs que j'adore aussi parce que c'est encourager le local. Donc, ils achètent leurs fruits à quelqu'un de proche. Ils achètent leur viande pour faire la bouffe à un autre proche. Fait que c'est pour ça que, d'après moi, ça fonctionne, les microbrasseries, parce que c'est comme ils ont créé une communauté et ça se tient entre eux autres. Fait que c'est ça qui est le fun, là.
Et donc là, d'emblée, tu pars avec cette idée-là, tu dis, OK, il faut que je fasse le tour de la Gaspésie. Premier élément, dans le fond, le projet est né en Gaspésie, donc c'était évident que le premier tome, ce serait les microbrasseries de l'Est du Québec, c'est ta région, c'est ta place, tu avais envie de la mettre en vitrine.
Exactement, c'était vraiment mon coin de pays. Je voulais montrer en premier parce que les gens gagnent à venir en Gaspésie, en Bas-Saint-Laurent. C'est un coin merveilleux. Et en même temps, ben ça, je sais pas comment expliquer ça. Ça rend ça encore plus intéressant, comme je disais au début. C'est le fun de voir le rocher percer, c'est le fun de monter des montagnes, mais avoir la petite récompense après de la bière, c'est encore mieux.
Et donc, là, tu pars avec l'idée, tu dis, OK, on veut faire ça. Donc, tu vas approcher chacun des microbrasseries, tu vas prendre des rendez-vous. Je veux dire, dans ma tête, pour planifier une tournée comme ça, au niveau horaire, au niveau transport, au niveau organisation, pour que ça fitte aussi, OK, je vais être là tel jour, comment te préparer un peu cette tournée-là?
Ben, c'est sûr que en voyant dans les journaux, certaines microbrasseries voyaient déjà passer une autre microbrasserie dans le journal, fait, ah, c'est intéressant. Certaines, ça a été plus difficile à convaincre parce que quand j'ai jamais entendu parler, c'est quoi, c'est une bande dessinée qu'est-ce que je vais faire là-dedans, puis tout ça. Fait que c'est le premier projet, bien sûr, que celle de Québec, ça a pris 2 semaines et j'avais toutes les microbrasseries de Québec. Fait que ils savaient déjà c'était quoi le produit. Et la première, c'est sûr, ça a été plus touch et on a fait des erreurs qu'on fera pas dans le deuxième, qui va être beaucoup plus simple. Pas vraiment des erreurs, mais pour nous simplifier la vie. Fait que, une fois qu'on avait tout le monde, là, c'est ça, on a fait la tournée et c'est sûr que c'est très demandant aussi, puisque c'est créer une bande dessinée, tu restes assis sur ta table, tu crées. Et là, c'est faire des rencontres et se promener, voyager. Fait que c'est un autre type de création, je trouve.
Est-ce que pour toi, dans le fond, c'est le côté, justement, tu disais, tu es habitué, dans le fond, de la démarche BD, tu écris ton scénario, tu dessines, puis souvent, c'est comme quand même un moment un peu, on est cloîtré presque un peu quand on crée. Est-ce une façon de sortir un peu de ta zone où tu dis, bon, OK, là, je vais sur place, je vais rencontrer, parce qu'il y a un gros volet rencontre, dans le fond, derrière ça, auquel tu étais peut-être un peu moins habitué?
Oui, tout à fait. D'habitude, les rencontres, c'est entre amis, puis c'est aucunement pour travailler. Là, c'était travail et rencontre en même temps, boire de la bière. Fait que, on rend ça encore plus intéressant. Et c'est moins, on se sent moins seul dans son monde aussi. Parce que on écoute les gens, puis les gens sont passionnés. Fait que c'est le fun, ça fait du social aussi. Le monde dans le BD, à part les festivals, puis tout ça, on est 90% du temps sur notre table à dessin, dans
Ça fait que
notre propre univers.
c'est ce qui fait que c'est plus trippant de sortir un peu, d'avoir des projets qui sont un peu hors normes, dans le fond, comme celui-là.
Tout à fait, ben oui.
Et tu te prépares une grille, dans le fond, quand tu vas rencontrer les microbrasseurs, tu sais c'est quoi les besoins que tu as d'un point de vue scénaristique. Puis tu sais aussi, j'imagine qu'il faut quand même avoir une structure pour présenter les microbrasseries un peu de la même façon. Donc, tu as tes pages, tu as le contenu dont tu as besoin. Est-ce que tu es plus un peu dans une logique d'entrevue, dans une logique découverte, parce qu'en même temps, il y a des éléments d'un microbrasseur, ben, par exemple sur son histoire, qui vont peut-être être plus riches d'un côté, d'autres, ça va être plus les saveurs. Donc, faut, j'imagine aussi avoir un peu d'agilité dans le cadre qu'on s'est donné. Donc, comment on compose avec ça, puis comment on prépare ces rencontres-là?
J'ai toute ma grille de questions en ordre pour être sûr d'avoir sortir bien les éléments communs. Certaines microbrasseries ont pas de brew pub, donc je me concentre plus sur leur type de bière, leur création. Donc, comme chaque microbrasserie aussi, une case en bas, recommandation de la place, côté bourse. S'ils n'ont pas de bourse, il faut que je trouve une autre solution et on va rester sur la bière. Oui, c'est ça, j'ai toute une structure et je m'adapte s'il y a quelque chose qui concorde pas dans mes questions et c'est juste ressortir le positif. Certaines microbrasseries ont des histoires ah ben ça marchait pas avec tel. Non, non, je veux pas entendre, je veux juste entendre des histoires positives de la place pour les gens. Puis c'est pour ça que ça a bien fonctionné aussi.
Et là, tu arrives, une fois que tu as fait la tournée, donc tu as rencontré tous tes microbrasseurs, tu as du matériel, j'imagine, audio, tu as de la photo, tu as des trucs d'information. Donc là, oui, tu as ta structure, mais il faut que tu choisisses aussi ce que tu décides d'y mettre parce que j'imagine qu'en dedans d'une heure, 2 heures, eux autres t'ont donné plus de stock que tu en as pour les 3 planches, dans le fond. Hein.
Ah oui, j'enregistre toutes mes conversations, j'ai pas le choix de toute façon, et je les réécoute en loop et je commence à construire ma planche avec des croquis et tout ça. Une fois que c'est construit, je commence à dessiner un peu et je leur montre. Fait que je veux qu'ils approuvent ça aussi. Une fois que c'est approuvé, je travaille sur le dessin final et je leur envoie. Voilà, la planche est faite nouvelle microbrasserie.
Est-ce que c'est facile d'aller choisir les faits saillants, dans le fond, ou les éléments qui t'ont. Est-ce que tu y vas un peu sur ce que toi, il t'a flashé un peu plus? Parce que, dans le fond, dans le tri d'informations, dans le choix de ce que tu mets sur les planches plus descriptives, narratives, dans le fond?
J'essaie de quand même avoir une bonne structure sur pas mal pareil, commencer par l'historique, qu'est-ce qu'on peut faire sur place, le futur et recommandations de la place. J'essaie d'y aller comme ça pour que le lecteur soit bien guidé aussi. Je m'en souviens plus de la
Donc, pour
question.
toi, ça t'aide à structurer, j'imagine. Ça facilite un peu de dire, OK, je sais que j'ai besoin de telle information. Fait que ça aide le tri, dans le fond, que tu vas faire.
C'est ça, exact. Des fois, il y a tellement de vécu dans la microbrasserie qu'il y a des choses difficiles à enlever. Des fois, je peux me permettre des plus grosses cases, étant donné que ça fait moins longtemps qu'elle existe, donc il y a moins de vécu aussi. Et en blé de jeu, c'est ça qui est le fun pour la création de l'album. C'est un challenge pour chaque microbrasserie. Mais en gros, c'est pas mal très intéressant. Les histoires qui ont compté, c'est des gens passionnés.
Est-ce que tu as des exemples, justement, peut-être d'histoires que, sans dire qui t'ont le plus lâché, mais j'aurais plus tendance à dire celles qui te viennent spontanément en tête, là, des histoires de brasserie qui t'ont allumé particulièrement ou qui te trottinent encore en tête à brûle pour point?
C'est sûr que je peux parler de la microbrasserie d'Amqui, puisque je viens d'être là, qui est une ancienne prison. Ils ont gardé les barreaux de prison, puis ils ont du gros vécu. C'était abandonné pendant des années, le bâtiment. Les jeunes allaient jouer au Ouija, fait qu'ils me contaient qu'il paraît que c'est hanté la salle en haut. Fait que ça revient un peu à mon. Je venais juste de sortir l'album Les 5 endroits les plus hantés. Fait que je dis, crime, ça me suit. Et oui, c'est toutes des petites anecdotes comme ça que je mets dans l'album. Je demande tout le temps ça aux microbrasseries, quelle anecdote vous aimeriez qu'il soit dans l'album. Soit c'est la question piège qui sont OK, faut que j'y pense, mais des fois, ça vient spontané. Et aussi, dans ma visite pour le tome 1, quand j'ai visité Brett et Sauvage aussi, c'était un type de bière qui faisait que les autres font pas, là, c'est avec le cool shit. Et je me sentais vraiment noob parce que je dis comment ça fonctionne, ça? Fait que c'était fascinant, là.
Le cool shit, tu dis? C'est... Pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui sont plus noobs que toi, là.
c'est des bières spontanées. Dans le fond, c'était une grosse cuve et la fermentation. J'embarquerai pas là-dedans parce qu'on va se perdre, mais c'est une façon particulière qu'ils ne font pas la même bière à chaque fois. C'est différent parce que c'est en tout cas,
l'enfant, ils donnent plus de place à l'expérimentation, à des brassins peut-être un peu plus petits, mais plus spontané, comme tu disais, donc où on y va avec l'inspiration du moment, des bières saisonnières presque.
Ouais, c'est barriqué aussi pendant longtemps, donc c'est tout expliqué dans le livre de toute façon. Mais c'était fascinant de voir ça, puis j'avais jamais vu ça non plus. Là. C'est une méthode qui était illégale avant et que Francis Jonca a réussi à amener légal au Québec. C'est très cool. Et ça fait des très cool bières aussi.
Et ça, on revient un peu à ce qu'on disait justement, où on peut penser que ça se ressemble tout un peu plus, mais finalement, quand on gratte moindrement un tant soit peu, il y a plein d'anecdotes et de particularités locales qui ressortent finalement.
Ah oui, chacune a leur charme. Là. Je peux pas. Tu me dirais, choisis une de tes préférées. Je dis non, parce qu'elle a ça qui est le fun, Fait que c'est très. C'est sûr qu'on. Avec certains brasseurs, on a plus d'affinités, on a plus, ceux qui aiment l'art et qui aiment bien exposer des choses, qui aiment faire des types de bières que j'aime. On trouve toujours une affinité avec chaque microbrasserie.
Et en parallèle, dans le fond, tu disais tantôt, donc une fois que tu as fait une première version de ta planche, là, tu leur fournis, tu leur envoies. Est-ce qu'il y a beaucoup d'allers-retours à ce moment-là ou... c'est plus dans le fond pour valider simplement, mais voici, est-ce que vous êtes confortable avec ça? Puis après ça, oui, non, puis tu te lances? Ou...
À 90%, c'est OK, c'est cool, continue. Certains demandent des modifications, des bonnes modifications, mais c'est plus rare ça. D'habitude, avec ce que j'ai d'enregistré, qu'est-ce qu'ils m'ont dit, je vais juste ramener en dessin ce qu'ils m'ont dit. Et d'habitude, comme je disais, 90%, c'est approuvé. Hein.
Et on disait d'entrée de jeu, en fait, je mentionnais qu'il y avait un côté très, justement, guide de visite, si on peut dire, ou guide de tournée, guide gourmand, à la limite, à ça. Il y a toujours un défi aussi dans la micro-édition de financer les albums. Donc, il y a eu le choix qui a été fait d'intégrer de la publicité à l'intérieur de ça, autour des pages des micro-brasseries. Donc, on est à tel endroit, mais qu'est-ce qu'il y a à faire d'autre, où on peut loger, où on peut ci, où on peut ça. Donc, il y a des ventes de publicité et tu as choisi pour pas nous faire sortir complètement de l'album où là, oups, on a des pages de BD, puis après ça, pendant 3 pages, on a de la pub, pendant une page, on en a, de dessiner aussi 100% du matériel publicitaire.
Oui, exact. Et même la pub qui est associée avec la microbrasserie a la même palette de couleurs. Donc, ça ne fait pas une pizza comme on peut voir dans les revues ou les journaux. Fait, ça fait même le fun à lire parce que ça rajoute de quoi aussi parce qu'une personne qui va passer 5 jours à la même place, des fois, il veut voir d'autres choses aussi, il veut voir d'autres affaires et les commerces qui ont embarqué dans l'album, c'est très diversifié. Il y a des librairies, des hôtels, des parcs nationaux et on en apprend tout. J'ai même ajouté des fun facts un peu. Vous pouvez voir telle affaire aussi qui n'est pas une pub, mais juste pour rajouter plus à l'album. Et c'est comme ça que aussi ça rend l'album plus fort.
Oui, puis en fait, je veux dire, même en termes d'approche, ça doit. J'imagine quelqu'un que tu approches pour de la publicité, tu dis ben, on va faire une pub dessinée, là, je vous demande pas un montage Photoshop ou quelque chose, fournissez-moi du matériel, je vais dessiner votre pub. On voit pas ça tant si souvent que ça non plus.
Ben oui, c'est ça. Il y a un couple qui est devant son hôtel, puis ils sont bien contents de dessiner en BD. C'est un plus de dire ah, regarde dans le journal, il parle de moi, mais là, c'est regarde, je suis dans une BD, je suis un personnage de BD. Fait que c'est un gros plus aussi. C'est très charismatique pour les hôtels, les commerces, en fond.
Et dans le. Pour toi, côté éditeur, dans le fond, ça vient asseoir un peu, diminuer un peu le risque financier qui est associé à la production de l'album aussi. J'imagine que ça doit donner une zone de confort pour s'assurer qu'on peut le produire, qu'on peut avancer dedans.
En fait, bière dessinée, c'est pas mal la vache à lait de Sarwin. Fait que c'est ça qui est le fun. Ça permet de bien starter nos projets avec les pubs, tout ça. On peut en sortir plus d'albums aussi. Et il se vend bien aussi. Fait que c'est ça qui est le fun pour Bière Dessinée. C'est un projet qui était OK, je vais-tu en faire d'autres tomes? Je ne sais pas, j'ai marqué tome 1, mais je vais-tu en sortir d'autres parce que je ne savais pas. C'est énormément d'ouvrages. Et en bout de ligne, je suis en train de faire le tome 2, fait que ça a bien été. Et Bière Dessinée va permettre aussi de faire d'autres albums, de financer d'autres albums aussi, fait que de Sarwin. Fait que c'est ça qui est le fun aussi pour ce projet-là, parce que c'est le fun à faire. Les gens aiment ça. C'est beaucoup d'ouvrages, mais au moins, la réponse est là.
Oui, puis en fait, la réponse est là. Il embarque autant, si je reviens au microbrasseur, autant pour l'entrevue, pour la discussion, pour t'accompagner un peu dans le processus de création. Mais après ça, il y en a pas mal aussi qui ont accepté de vendre l'album sur place également. Là, ça, j'ai vu passer quelques microbrasseurs qui disent on a désormais l'album Bière Dessinée disponible chez nous.
Ah oui, c'est ça. Ben, c'est sûr que chaque microbrasserie vend leur propre marchandise et pourquoi pas mettre un album qui parle d'eux autres même. Fait que toutes les microbrasseries embarquent pour mettre quelques bières dessinées et c'est très fun aussi. Au passage, les gens vont acheter de la bière et genre prendre la lecture en même temps pour s'asseoir. Et chaque micro embarque pour genre demande aussi, êtes-vous correct pour prendre quelques albums? Les microbrasseries, ça coûte absolument rien d'être dans l'album. Fait que comme ça, ça aide toutes les autres aussi. Ils vendent leur spot, mais ils parlent d'eux autres, mais ça parle des autres aussi. Fait que chacun, ça entraide les autres aussi. Là.
Ça devient enfin encore là. Dans le fond, une autre manière de. On revient un peu à ce qu'on dit au départ, de faire des guides gourmands, faire des guides Bresca, des guides découvertes. Tu pars en vacances, mais pourquoi pas? Dans le fond, prendre un livre un peu comme celui-là. Et dans le fond, la Gaspésie s'est imposée pour le premier tome. Pour le deuxième tome, là, tu as choisi d'aller avec la grande région de Québec?
Oui, c'est ça. Et, ayant vécu 16 ans de temps à Québec, ça va de soi que je connaissais déjà quelques microbrasseries ayant déjà exposé là. Je dis, OK, je vais prendre Québec. Et aussi, Samuel Audet de La Barberie, il m'a contacté, il me dit « Hey Nick, paraît que t'as un projet cool. » Puis on s'est rencontrés, je faisais la promo ici à Québec pour Bière Dessinée tome 1. Et fait « OK, bon, on va faire Québec pour le tome 2. » C'est sûr qu'il y avait d'autres régions qui m'intéressaient avec des bonnes microbrasseries, mais finalement, Québec, c'est sûr que j'ai passé 16 ans de temps ici. Fait que ça allait de soi que j'y aille avec ça.
Oui, puis avec le fait de la méthode un peu plus assise du premier tome, donc ça fait que le deuxième, tu vas gagner en efficacité. En temps, etc., etc.
Ah oui, si ça a pris des mois pour avoir certaines microbrasseries dans le tome 1, en 2 semaines, comme je disais tantôt, tout le monde a embarqué. Là. Était
Ouais.
très heureux aussi.
Même pour toi, pour les dessiner, pour l'info, c'est une méthode que tu maîtrises un peu plus, là. T'as fait le premier tome, fait que le deuxième va se faire un peu plus rapidement, j'imagine, là, en termes de temps d'investissement, etc., là.
Ah oui, il y a bien des choses qu'on va pas refaire dans le tome 1. Et au moment qu'on se parle, je suis en train de faire toutes mes rencontres avec les microbrasseries de Québec. J'ai pris un Airbnb pour 1 mois. Fait que je rencontre les 23 en 1 mois. Fait que j'ai pas des cernes pour rien.
Et est-ce que l'ambition à terme, ça serait éventuellement d'avoir, dans le fond, des parcours comme ça pour l'ensemble des régions administratives du Québec?
Ah oui, puis peut-être même au-delà de ça. C'est ça, je veux pas tous les illustrer. Je vais peut-être donner le contrat à d'autres dessinateurs pour certaines autres régions, mais oui, il y a beaucoup de belles micros à découvrir, beaucoup de belles régions que j'aimerais. Tome 3, je ne sais pas encore où c'est que ça va se passer, mais c'est sûr que ça va continuer, là.
Évidemment, d'ici là, on a le tome 1 si on planifie ou si on pense ou si on veut penser à aller en Gaspésie. Bon, on met la main sur le tome 1. Il y aura le tome 2 si on est du côté de Québec ou si on pense venir y faire un tour. Éventuellement, d'autres tomes. Je c'est disponible en microbrasserie, mais c'est également disponible sur le site web des éditions Sawin. Donc, on a simplement à faire une recherche sur notre logiciel engin de recherche favori. C'est assez facile à retracer. Donc, bière dessinée Sawin ou bière dessinée Nick Michaud. Nick, merci beaucoup.
Merci, Ramon.
Toujours la vie en BD. Alors, on poursuit une tradition qu'on a démarrée en septembre. Donc, on continue avec la nouvelle année. Bien, c'est de faire les bilans, les étapes de lecture, les mois en BD de Stéphane Gravel. Et Stéphane, bien, est avec nous. Bonjour.
Bonjour, bonjour. Et c'était un mois de presque congé. Donc,
T'as eu le
j'ai
temps
eu
de
le
lire.
temps. Ouais. Raymond, je sais, on va parler de BD dont on a déjà parlé beaucoup. Exemple, La Bombe. On a beaucoup parlé de La Bombe. Tout le monde, je pense, présentement parle de La Bombe parce que ça va probablement gagner un paquet de prix en BD. On en reparle-tu dans cette émission-là ou pas? Oui, un peu, je pense que je dois en reparler parce que j'ai eu le temps de lire La Bombe pendant les vacances du temps des fêtes. Je me suis arrêté pour lire cette pyramide d'Égypte-là parce que c'est monumental. Cette BD-là n'est pas une BD, c'est un monument. Et les artistes, les auteurs qui ont travaillé là-dessus ne sont pas des auteurs, des dessinateurs, sont des athlètes olympiques. C'est une BD extraordinaire, avec un travail extraordinaire, avec une recherche extraordinaire et qui laisse une impression de lecture aussi extraordinaire. Rares sont. Je suis un peu emballé, là, Raymond, parce que c'est rare que j'ai lu une BD qui m'apportait autant de connaissances, qui m'amenait autant dans la réflexion sur un moment de mon existence, de mon contemporain. Là, j'étais pas né à la Deuxième Guerre mondiale, mais ça fait partie de notre univers contemporain. Je me suis replacé à l'époque, j'ai réfléchi à des choses, je comprends ce qui se passe maintenant, peut-être plus dans certains contextes politiques ou de la façon de travailler. Cette BD-là est vraiment une histoire des États-Unis et vraiment quelque chose d'extraordinaire qu'on doit absolument lire et qui nous rend, je pense, plus intelligents quand on a fini. J'ai adoré, adoré, adoré cette BD-là. Je sais que tu l'as lu toi aussi. Je sais
C'est
que
dans mes
ça
coups
fait
de
partie de tes coups de
cœur.
cœur.
Et je ne sais pas, pour moi, c'est que ça parle un peu ça, puis un autre titre aussi dont tu vas parler tantôt. T'sais, pour moi, c'est aussi la démonstration de la richesse et de la force du documentaire en BD, au-delà du témoignage. C'est un produit qui aurait été, dans le cas de La Bombe, ça aurait été pratiquement une mini-série documentaire, ça avait été en production télévisuelle. Donc, on passe à une étape d'un certain journalisme documentaire, je trouve, qui est très abouti aussi à travers des exercices comme ceux-là.
Oui, parce que moi, la question que je me suis posée en commençant cette BD-là, parce que quand même, elle est lourde, Et j'ai eu peur physiquement, elle est lourde, elle est grosse, elle est lourde. Il faut se mettre un petit coussin en dessous pour être capable de la lire quasiment parce qu'elle
Ils vendent
rentre
des
dans
coussins de
glisse.
lecture à Star, d'ailleurs.
Pour la bombe. Mais je me suis dit, est-ce que je suis en train de m'attaquer aussi à quelque chose de lourd? Parce que le sujet peut être lourd et le contexte historique en BD ou documentaire, souvent, souvent c'est un peu, ça peut être un peu lourd. Mais là, la façon dont cette BD-là est construite, la façon dont les auteurs amènent les personnages, les personnages qui sont des personnages réels et des personnages historiques, deviennent quand même des personnages de bande dessinée et des personnages qui sont moteurs de récit. Et c'est ça que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est que dans le documentaire télé, il faudrait s'attendre à voir les vraies personnes et avoir des archives. Sinon, ça devient un film qui prend l'histoire et qui le raconte avec des acteurs qu'on reconnaît ou qu'on ne reconnaît pas. Mais tu sais que tu regardes une fiction sur l'événement. Mais tandis que là, en BD, c'est ni un ni l'autre. C'est vraiment une histoire documentaire, intelligente, qui laisse une belle impression à sa fin. Écoute, c'est une BD qui est énorme et on a le goût d'en lire un peu plus. J'ai le goût de savoir qu'est-ce que c'est. J'ai le goût qu'ils continuent cette histoire-là, ces gars-là. Et probablement qu'ils ne veulent pas continuer parce que ça devait être un travail d'enfer. Ils ont été envahis par leur œuvre. Mais j'aurais tellement le goût de continuer dans cet univers-là. Le dessin est d'une efficacité extraordinaire. Et la ligne, elle est précise, elle est pure. Le dessin est beau, la narration est extraordinaire. Écoute, Julien, je suis emballé. Cette BD-là m'a jeté sur le dos et sur le
Oui,
bas du dos.
oui, puis j'ai l'impression que c'est difficile de ne pas être jeté sur le dos par cet album-là. En fait, on le voit de prix en prix. Je pense qu'ils ont eu Case d'Histoire, ça a eu la CBD, Prix de la critique au Québec, ça a eu plusieurs autres prix aussi, ça et là. Et je pense que c'est pour beaucoup de lecteurs attentifs. Dans le fond, c'est une BD incontournable. Et au-delà de ça, je pense qu'ils ont eu plusieurs tirages aussi. Donc, le public a l'air au rendez-vous. Et je trouve que c'est aussi enthousiasmant parce qu'un éditeur, pour se lancer dans un projet comme celui-là, une BD aussi monumentale, qui nécessite plusieurs années de travail, ben de voir justement que ça paie en dividende, mais peut-être qu'il y a d'autres projets, entre guillemets, improbables, qui pourront être inspirés de la réception que la bombe a obtenue, autant du côté de la critique que du côté du public.
Oui, absolument. Puis je pense qu'une des forces de cette bande dessinée-là, c'est que on dirait qu'elle n'est plus une bande dessinée. C'est-à-dire que ceux-là qui boudent la bande dessinée ne bouderont pas la bombe parce qu'elle est autre chose qu'une bande dessinée et elle va s'adresser au grand public au même titre qu'un Astérix ou Lucky Luke, qui aujourd'hui ont le monopole du grand public en bande dessinée. Le reste de la bande dessinée, ça reste quelque chose qui s'adresse à des lecteurs, entre guillemets, marginaux. Mais là, la bombe, je pense que n'importe qui, de n'importe quel âge qui s'intéresse à ça, va embarquer dans la bombe et va embarquer avec plaisir, là. Ça va ouvrir les portes de la bande dessinée. Et en plus, que ce soit dessiné chauvinisme maintenant, que ce soit dessiné par quelqu'un d'ici, que ce soit dessiné par un Québécois, ben c'est d'autant plus extraordinaire parce que enfin, la bande dessinée par la bombe va exploser au Québec, je pense.
Et puisque tu parles de la bombe, en fait, dans tes lectures de temps des fêtes, appelons-les comme ça, t'es resté un peu dans une bande dessinée documentaire, dans cet entre-deux, si on peut dire genre, mais en partant du côté américain avec Kent State de Death Back Death, qui est aussi, ça me fait sourire de voir qui était aussi dans tes lectures, parce que pour moi, c'est un autre de mes grands coups de cœur de l'année BD 2020.
Écoute, c'est à cause de toi que j'ai lu cette bande dessinée-là, parce que tu m'en as glissé un mot à un moment donné, ça a attiré mon attention. C'était passé chez les éditeurs, ça et là. J'avais pas nécessairement flashé. Là, j'ai eu, comme d'habitude, j'ai un petit peu eu peur de la lire parce que je m'installe sur cette BD-là après la bombe. Tu sais, c'est comme un peu, tu dis, est-ce qu'il faut que je fasse un sevrage un peu? Est-ce que je dois lire les mémoires de Woody Allen avant de lire une autre bande dessinée pour me faire un ménage lymphatique de mes lectures. Mais non, j'ai embarqué pareil dans cette BD-là. Puis là, écoute, je suis tellement touché par cette BD-là que j'ai à peine quelque chose à dire sur la BD. La bombe m'a bouleversé pour son côté extraordinaire de travail, de recherche, de BD sérieuse, facile et plaisante à lire. Là, j'embarque dans Kent State et là, j'embarque dans la tête d'un auteur, mais dans un événement à la fois connu et pas connu. Je m'en souviens un peu, j'étais jeune, mais j'étais vivant à cette époque-là. Et là, j'embarque dans un univers extraordinaire, extraordinairement bien raconté. Jamais, 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 il y a un temps de lecture qui me semblait long. Et encore une fois, c'est une méchante, c'est quand même une bonne brique. Et à la fin, j'ai pleuré. J'ai pleuré à la fin de cette bande dessinée-là. Elle m'a touché fondamentalement au cœur. Et là, pour qu'une bande dessinée réussisse à bouleverser des sentiments, à faire réfléchir comme ça, je pense qu'il faut que l'auteur ait réussi à faire quelque chose d'assez puissant. Parce que c'est pas une BD avec un dessin qui est hyper charmant ou qui est type. Tu sais, il y a son style. Il est issu un peu de l'underground. On sent un peu l'underground américain. Les personnages ne sont pas d'une crédibilité physique ou attachante par le dessin. Son dessin n'est pas racoleur pour des raisons de superflu ou de prouesse technique. Mais oui, il y a une grande technique, mais il y a son style. Il y a son style de dessin qui fait que son dessin est signé par sa main. Toujours, on sent l'auteur derrière ce dessin-là. Et on sent le questionnement d'un petit bonhomme qui avait le même âge que moi quand cette histoire-là s'est passée. Et là, moi, j'embarque dans cette histoire-là et j'embarque dans la grande tristesse de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. C'est comme si il avait ouvert une plaie sur les Amériques qui était cachée par des pansements depuis des années. Et puis là, écoute, j'ai été bouleversé, touché, j'ai pleuré, je me répète, et c'est une de mes plus belles lectures de l'année. En toute honnêteté, c'est une de mes plus belles lectures de l'année. J'aime beaucoup le comic book, j'aime beaucoup les Batman, tu le sais, j'aime beaucoup aller des fois dans cet univers-là, qui est un univers qui est complètement artificiel, qui est complètement composé, dans lequel il y a plusieurs niveaux de lecture, oui, peut-être, mais là, Kent State, c'est un bijou. C'est un bijou.
Oui, puis en fait,
Hein,
ben,
c'est.
c'est magistral comme BD. Et pour moi, en fait, j'en parlais un peu avec La Bombe, puis avec Kent State aussi, si on va, et Bagdef le mentionnait quand on l'avait reçu en entrevue sur, entre autres, cet album-là en avril-mai dernier. Dans le fond, pour lui, ça avait été une graine qui avait été plantée, tu l'as dit, à l'époque, qui l'avait amené vers justement un travail journalistique. Du journaliste, il est allé vers l'illustration politique. L'illustration politique et la caricature, il est allé vers la bande dessinée underground, et où il a toujours été un peu dans une logique de témoignage ou de récit fictif, dans le fond, où il allait chercher dans de l'expérience, dans de la réalité, soit dans le fond en l'intégrant dans un récit de fiction, soit en l'intégrant, comme avec Mon ami Damar, dans un récit de témoignage. Avec Kent State, bien, il retourne à ses racines, à son premier métier, à ses études de journalisme. Et il fait encore là un amalgame entre le médium BD et le journalisme, où on est en avant d'un récit, et je suis un peu discassé, mais je trouve que c'est important de le mentionner, mais où il a fait, dans le fond, une reconstitution complète aussi de ce qui s'est passé. Il n'y a pas tant d'archives visuelles. Donc, la recherche, le travail de validation des sources, je veux dire, au-delà même d'un scénario de BD, on est encore, un peu comme avec La Bombe, dans un truc qui est dans du beau journalisme, en fait, voire peut-être même du grand journalisme à un certain degré, où on va, dans le fond, faire une reconstitution d'un événement marquant qui n'est pas nécessairement si connu ici, mais qui l'a été aux États-Unis, qui a été marquant et qui, par le truchement des États-Unis, est marquant partout ailleurs. Puisque, dans le fond, on est tombé un peu dans une culture un peu anti-guerre. Dans le fond, ça a été un champ. Ça a été la perte de l'innocence avec la guerre du Vietnam, la fin de la guerre, Nixon. Et Kent State a été un peu l'étincelle qui a allumé tout ça. Donc, c'est un récit important qui est raconté de manière à être capable de nous faire prendre conscience de tout ça. Et je trouve qu'il y a tellement une belle richesse dans ce récit-là, là, c'est.
Oui, puis tout est raconté, puis on le voit à la fin, là, à la fin quand on regarde chacune de ces pages qui sont annotées, avec les sources. Là, tu te dis, attends une minute, là, il n'y a pas une case dans cette BD-là qui est gratuite. Là. Tout est. J'ai vu ça à la fin, il l'a vu dans les journaux, il l'a lu à quelque part, il est allé à la bibliothèque. Il y a un travail énorme qui pourrait tellement refroidir les émotions d'un récit comme ça. Tu sais, on est presque dans le toc là, quand tu dis ça, tu dis coudonc, tout est tellement précis. Il est fou. Mais quand tu lis l'histoire, tu ne te dis pas, ah non, il est pas fou, il est tellement touchant. Et puis il y a une beauté là, dans cette histoire-là, quand même. C'est-à-dire, c'est le rêve de vouloir que ces choses-là changent. Il y a la beauté de la jeunesse qui veut changer les choses, la beauté de l'éveil, puis tout ça qui est malheureusement mitraillé par le conventionnalisme passé. Là. Écoute, c'est génial, cette BD-là. Là. C'est à mettre vraiment entre toutes les mains. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de réflexion à faire là-dessus. C'est le nouveau Maus. Là, bon, il ne faut que je veux pas comparer deux choses, mais d'après moi, ça va devenir un incontournable de lecture. Là.
On change peut-être un peu de sujet de style. On va aller avec Mind Management, donc ton troisième titre de ce mois en BD.
Ben écoute, pas vraiment, parce que c'est aussi une BD documentaire. C'est un autre documentaire en bande dessinée, sauf que c'est pas vrai. C'est un faux documentaire. Cette bande dessinée-là, encore une fois, c'est les États-Unis qui sont... À date, là, si on va avoir un lien commun, là, pour l'instant, comme souvent on se rend compte qu'on a à travers les lectures du mois, là, c'est les plaies américaines. C'est les blessures que se sont infligées eux-mêmes, les Américains, et qu'ils n'ont jamais réussi à guérir. Quand tu lis la bombe, je veux pas faire de politique, mais on dirait que tout ça m'aide à comprendre pourquoi Trump a été là. T'sais. Trump est comme l'apologie d'une douleur d'un peuple qui a grandi dans la guerre et dans la violence. Mais là, je généralise, je veux pas généraliser, mais quand on arrive dans Mind Management, Matt Kind est un auteur de bande dessinée que je trouve extraordinaire. Il y a un dessin qui est très, très, très nerveux, des aquarelles très jetées, très. On sent que c'est organique, son travail est organique. Il va pas se forcer pour faire des beaux dessins, mais il va se forcer pour faire un dessin efficace. Il est issu à la fois du comic book classique américain de super-héros en même temps qu'à l'underground. Il va toucher un peu à n'importe quoi. Et là, dans Mind Management, c'est une histoire de 10 super-héros, c'est-à-dire que le Mind Management, c'est un groupe américain, un peu comme le FBI, qui est monté par des personnes avec toutes les sourdouées qu'ils rencontrent à travers leur vie pour pouvoir créer une espèce de groupe qui, lui, va servir le peuple américain pour s'infiltrer chez des ennemis ou des trucs comme ça. Et c'est raconté comme si c'était un documentaire. C'est-à-dire que quand tu lis le Mind Management, tu lis le rapport de quelqu'un sur le Mind Management, sur ces personnes-là. On voit d'où ils viennent, comment ils ont été montés, montés jusqu'à devenir Mind Management. Mais on se rend compte que ces personnes-là, un peu, pas mal surdouées, sont surdouées. Et leur douance est limite d'une douance de super-héros. Fait que tranquillement, on tombe dans le comic book et on tombe dans l'univers super-héros. Et puis, je te donne un exemple. Au début, ça commence, tout le monde est frappé d'amnésie. Il n'y a plus personne qui sait qui il est et pourquoi il est là. Et on se rend compte que ces personnes-là viennent d'un vol qui est le vol 815. Et moi, dans ma tête, ça me sonne de quoi? Ça me rappelle qu'est-ce que ça sonne. Mais le vol 815, c'est le vol de Lost, la série Lost à l'époque. Le vol était le vol 815. Et là, lui, il part son histoire avec des gens du vol 815 qui sont amnésiques, dont parce qu'il y a quelqu'un du Mind Management dans ce vol-là qui a la capacité d'enlever les souvenirs aux gens. Et c'est un peu comme ça que l'histoire se bâtit. Et là, l'histoire se bâtit à plusieurs niveaux parce qu'on a les faits. entre guillemets, dit réel de cette histoire-là. On a le dit, entre guillemets, dossier sur ces personnes-là qui sont dites réelles. Et on se rend compte, en regardant les marges, que tout ça est écrit sur un texte qu'une personne dans l'histoire, elle, a écrit. Un texte de fiction. Elle a écrit un roman. Et le roman, on se rend compte que notre rapport est un peu collé sur ce roman-là. Ce qui fait que si tu lis juste les petites lignes sur le côté, tu as une histoire. Si tu lis le rapport, tu as une histoire. Si tu lis les entre-rapports, tu as une autre histoire. Et tout ça est dans un monde complètement fêlé, où on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Ça devient un univers paranoïaque extrêmement intéressant. Et c'est en même temps un polar classique. Écoute, c'est une espèce de petit chef-d'œuvre de manipulation narratif en BD, là. Je ne te dirais pas de mettre ça entre les mains à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire de la bande dessinée, en toute honnêteté, parce que, justement, tous ces niveaux-là, c'est pas évident
de se démêler. Ça nécessite une maîtrise des codes ou une compréhension de la structure inhérente à la bande dessinée.
Exactement, et c'est pas une lecture qui demande pas un effort non plus. Consciemment, je pense que j'aimerais lui parler. Raymond, tu pourrais faire une entrevue avec lui. Je ne sais pas s'il n'y a pas désiré vouloir allonger le temps de lecture de la BD en nous obligeant parfois à aller confirmer ce qu'on vient de lire en retournant en arrière ou en brisant la linéarité ou la ligne conventionnelle de la bande dessinée. Là, tu sais, on part à la page 1, on lit, on s'en va à la dernière page, puis c'est fini. Mais là-dedans, tu ne peux pas faire ça. Tu as l'impression de revenir. Puis, comme, étant donné qu'il y a des récits ou deux ou trois histoires, des dessins de marge ou des notes pris dans les marges ou, comme je disais tantôt, des lignes du roman sur le côté. À un moment donné, si tu lis ta page, tu lis les lignes, tu lis le dessous, tu deviens complètement mêlé dans ton histoire et je suis certain que c'est volontaire parce que tout est mêlé là-dedans et tout le monde est mêlé. Fait que tu dois faire un choix. Qu'est-ce que je lis? Fait que là, tu lis, un, la BD, ensuite tu reviens en arrière et tu te dis, je vais lire les petites lignes qui étaient sur le côté pour voir c'est quoi l'histoire. Ensuite, je reviens en arrière, tu te dis, je vais lire un petit peu les notes de bas de page pour essayer de comprendre qui est.
C'est une logique expérience, en fait.
C'est un mal de tête, mais tellement agréable et tellement fou. Écoute, c'est vraiment une drôle de BD. C'est une BD qui risque et qui va, je pense, passer inaperçue. Mais je pense que pour les fans un peu fous, maniaques de BD, là, c'est du solide, là. C'est vraiment du solide.
Et peut-être en dernière lecture, avant de se laisser, Stéphane Gravel, on parle d'Affaires d'État, donc tome 1 et tome 2, qui s'est retrouvé donc, sur ton coussin de lecture dans le temps des fêtes.
Et là, on ne parle pas de documentaire, on parle de BD classique. La suite que je pourrais faire avec cette BD-là, c'est que le personnage du tueur n'est pas loin des personnages qu'on peut retrouver dans Mind Management, c'est-à-dire que c'est un personnage mystérieux. Il y a une drôle de tête, ce tueur-là, il y a une drôle de tête dans sa tête, mais c'est une BD classique, mais comme la série Le Tueur, et je pense que là, on va encore un petit peu plus loin, parce que Le Tueur là, va travailler pour des gens qu'il connaît, ce qu'il ne faisait pas réellement avant, et il va travailler en équipe avec d'autres personnes, ce qu'il n'a jamais voulu faire non plus. Pour ceux qui ont lu la série précédente. Et là, il est dans un monde d'infiltration, dans des univers économiques, dans des univers de détournement d'argent. Il doit encore tuer des gens pour créer des événements. Je veux pas vendre de punch. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout le long de cette BD-là, on est toujours dans la tête du tueur et comment il justifie ses choix et comment il observe la réalité qui l'entoure. Et encore une fois, comme dans Mind Management, on est un peu dans un univers paranoïaque. Je pense que si le tueur est capable de pouvoir faire ce qu'il fait, de pouvoir tuer des gens et de pouvoir avancer dans ses aventures, c'est parce que dans le fond de lui, il a un petit côté paranoïaque qui fait qu'il ne voit pas la réalité comme elle est réellement, mais il voit les choses qui l'entourent comme des menaces potentielles. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on est... C'est toujours de jouer entre la fiction et la réalité. Tu sais, à un moment donné, il dit « la barbe est à la mode ». il y a une pensée comme ça, il dit la barbe est à mode, il dit la barbe est maintenant à mode, mais il dit qu'est-ce que ça crée ça, la mode des barbes, il dit ça nous oblige à avoir des barbiers, il dit c'est quoi les barbiers, il dit c'est des gens qui manipulent de l'argent sans avoir de dépenses, donc c'est une des meilleures places pour blanchir de l'argent. Fait que posez-vous pas la question d'où vient la barbe, c'est la mafia qui a peut-être créé la mode de la barbe pour pouvoir mieux blanchir son argent chez les barbiers.
Qui nous montre des
Et là,
conspirations.
tu es dans les conspirations, tu es dans la paranoïa, mais tu as souri et j'ai souri et c'est drôle. Mais c'est pas de la BD humoristique, mais là, tu dis, ah, y a-t-il un fond de vérité là-dedans? Y a-t-il... Fait que, tu sais, on jongle un peu avec tout ça, et avec mais c'est le personnage très fictif un tueur à gages, mais. En fin de compte, qu'on aime, on l'aime. C'est notre personnage principal depuis. Il y a eu quoi, 13 albums dans la série numéro 1. Il y en a deux maintenant de sortie là. Et c'est un personnage qu'on aime. Pourquoi?
Un peu comme dans Le Tueur, dans le fond, où on nous amène des anti-héros et des gens qui ne sont pas nécessairement appréciables, mais qui, dans le contexte du récit, ben, on finit par s'attacher à des personnes qui sont,
Exact.
bouffons, amorales, puis qui, dans la réalité, ne susciteraient pas cet attachement-là.
Exactement. C'est le fun de dire ça. Ça nous amène complètement ailleurs. Puis là, on est dans le créatif pur, là. J'ai beaucoup aimé ça. Puis je pense que j'ai hâte de lire la suite.
Alors, à
Voilà.
suivre pour ces affaires d'État, donc les deux premiers tomes de cette deuxième série donc, dans lesquels tu t'es plongé. Et les titres dont on a parlé avant, c'était Mind Management, donc Mind MGMT, si vous cherchez le nom précis, et également Kent State et La Bombe. Stéphane Gravel, on te souhaite un bon prochain mois en BD. On se retrouve à quelque part à la mi-février.
C'était un incroyable mois de décembre, début janvier, hein, quand on regarde ça, là. C'est beau, la BD. Il y a des belles
Oui,
choses.
oui. On va maintenant plonger vers quelques commentaires BD.
Du côté québécois, chez Alto, nous arrive le département des théories fumeuses, la nouvelle bande dessinée de Tom Gold, bande dessinée à strip, donc on est plus dans la tangente dans Cuisine avec Kafka, de Vous êtes tous jaloux de mon jetpack, plutôt que de ces récits longs façon Police Lunaire ou Goliath. Donc, Alto au Québec, 2024 en France, nous offre ce département des théories fumeuses qui, donc, contrairement à Kafka et au jetpack, donc, qui, eux, s'intéressaient plutôt à l'univers de la littérature, était associé à un travail que Tom Gold mène pour certains médias, entre autres britanniques. Donc, pour la sphère littéraire, pour la sphère créative, pour la sphère artistique. Et bien, en parallèle, Gold est sollicité aussi dans d'autres médias pour porter un regard sur une autre sphère créative, celle de la science. Alors, la science qui est mise de l'avant dans New Scientist, donc une publication qui traite justement de découverte et de vulgarisation et qui intègre, dans le fond, des strips de Tom Gold. Et donc, dans le département des théories fumeuses, eh bien, on plonge donc justement dans cet univers, dans ces strips, et il porte un regard amusé et aimant de la science, amusé et passionné, disons-le comme ça, de la science, tout comme il portait un regard amusé et passionné sur l'univers de la littérature et de la création artistique dans ses deux précédents albums de strips. Alors, pour les amateurs de Tom Gold, pour ceux qui apprécient son style à la fois minimaliste, mais aussi très riche, riche en évocations, riche en réflexions absurdes, mais profondes en même temps, avec le côté un peu stoïque aussi avec laquelle il nous amène les choses, eh bien, ils vont se retrouver comme à la maison avec le département des théories fumeuses. C'est certain, par exemple, qu'on n'est pas dans le même schéma de référence et que le regard que vous portez sur la science, la relation que vous entretenez avec la science, ben, pourra peut-être influencer aussi le regard que vous portez sur ce livre-là, un peu comme il en était avec la sphère littéraire dans ses deux précédents albums de strip. Cela dit, je le disais, tantôt, on se retrouve comme à la maison avec le département des théories fumeuses. C'est du Tom Gold comme on aime. Personnellement, j'ai beaucoup aimé à peu près l'ensemble de sa production. Alors, disons qu'on le dévore tout aussi joyeusement. Et il y a une façon, Gold, d'amener justement des réflexions, d'amener ses propos, de porter un regard amusé sur des situations qui vont en même temps nous citer certaines réflexions. Donc, ce n'est pas des strips qui se limitent nécessairement au strip en lui-même, mais sont porteurs parfois d'un peu plus, des strips où on va aller franc vers les sciences, des strips où on va matiner les sciences de science-fiction. On ne s'attendra pas nécessairement non plus au buzzword de l'heure, mais on va parler plutôt de la science et de l'innovation de façon très, très large. Et dans le fond, ça donne aussi un côté peut-être pérenne à l'album où il évite justement les tendances, entre guillemets, à la mode pour justement nous amener vers des regards sur des approches plus traditionnelles ancrées dans un côté peut-être un peu intemporel à la limite. Et donc, ce qui augmente, à mon sens, son potentiel aussi de relecture. Et je le redis, le dessin minimaliste de Gold qui est une belle réussite à l'intérieur de ce récit comme il est dans tous les autres. C'est un style qui est de plus en plus reconnaissable, qui est de plus en plus apprécié aussi, je l'espère. Et ben nécessairement, pour ceux qui aiment l'auteur, eh ben ils attendaient déjà ce département des théories fumeuses de pied ferme et sont assurément contents de l'avoir trouvé. Pour ceux qui, par un plus pur hasard, n'avaient pas encore découvert Tom Gold, j'aurais envie de vous dire rendez-vous service. Peut-être commencer par aller voir sur les médias sociaux, donc sur sa page, il partage entre autres certains des strips ou dans le genre de strip qu'on va retrouver dans ces récits-là. Et ensuite, selon votre amour principal entre la sphère de la littérature et de la création et la sphère de la recherche scientifique, eh bien, choisissez votre arme et plongez. Et nécessairement, enfin, une fois qu'on commence, peu importe avec lequel des trois on commence, j'ai l'impression qu'on va plonger vers justement les autres albums tout de même, peu importe nos champs d'intérêt. Et ici, ben, je pense qu'on ne peut pas non plus se priver de profiter de ce regard sur les sciences et de l'amusement que nous apporte ce regard. Donc, chez Tom Gold, c'est disponible au Québec, chez Alto en France, chez 2024. Ça s'appelle le département des théories fumeuses. On porte maintenant un regard vers le Bix de Scott Chandler du côté des éditions La Pastèque. Bix, donc, qui est un musicien jazz qui s'est illustré dans les années 1920. Bix, c'est un musicien jazz qui était aussi en avance sur son temps, notamment dans la sphère de l'improvisation. Bix, c'était un musicien qui s'illustrait aussi parce qu'il était un des rares à l'époque blancs dans une scène musicale qui était dominée par les Noirs. Et Bix, ben, c'est l'histoire qu'on retrouve et c'est le musicien qui est mis de l'avant dans ce récit de Scott Chandler. Un récit qui est absolument brillant et je pèse mes mots, sincèrement. Scott Chandler qui fait le pari de nous raconter la vie de Bix, de sa naissance dans l'Iowa jusqu'au concert à la Nouvelle, dans la Nouvelle-Orléans, et qui fait le pari de nous le raconter, mais de façon muette, donc sans mots, et avec un effet fort. C'est, je le disais en fait, absolument brillant comme album, et ce pari qu'il prend, eh ben, il paie en dividendes, je crois, au fil de l'album. C'est rare qu'on voit un ouvrage biographique dans ce style-là, et sincèrement, c'est enlevant, c'est passionnant. On m'en avait parlé avant que je tombe sur l'album, et j'avais déjà des attentes, et ces attentes-là ont été largement répondues. Donc, on part avec donc l'histoire de ce musicien qui racontait aussi un peu, parce que chaque planche a un peu son esthétique, son visuel. Donc, c'est à l'italienne, mais on va jouer aussi avec l'architecture, donc certaines qui sont plus classiques, traditionnelles, linéaires, d'autres qui vont être un peu éclatées. Donc, un peu à la manière aussi d'une partition musicale. Donc, une mise en scène qui est bien réfléchie, qui est bien organisée, qui est bien accordée, que nous propose Chandler là. Et au service, dans le fond, d'un parcours qui est particulier, d'un parcours qui a un fond aussi un peu de tragique, j'ai l'impression. Donc, Bix, c'est une figure mémorable du jazz. C'est une figure tragique aussi de son époque. Donc, d'un côté, dans ses relations parentales, donc un père qui va un peu pratiquement le répudier de par ses choix. Dans le fond, tant qu'il ne revient pas à quelque chose de plus sérieux, eh bien, il ne voudra pas entendre, écouter, savoir. Donc, ça mène une césure importante avec sa sphère familiale. Bix va avoir des difficultés à nouer des relations avec d'autres personnes aussi. Il va se créer un sentiment de distance, qui va être aussi, à un certain égard, exacerbé par la vie de tournée, par la vie de déplacement, par la vie du spectacle, qui à la fois l'attire, les allures de cet univers qui vont évidemment l'intriguer, qui va avoir envie de vivre cette vie, mais en même temps, c'est une vie qui, de par un peu son incapacité, justement, à entrer des relations, à les trouver peut-être chez des individus, un sentiment de maison, un sentiment de sécurité, un sentiment de réconfort, mais qui va l'amener à se tourner au départ vers l'alcool et qui va l'amener à perpétuer aussi une relation très nocive avec l'alcool qui, au final, devient sa sécurité, devient sa constante au fil du récit. Alors, sporadiquement, on le voit, peu importe la situation, peu importe le moment, avec sa petite flasque qui va en prendre une petite sipée, si vous permettez le québécicisme. Et donc, tout ça au fil de l'album où, finalement, c'est l'alcool une présence qu'on ne peut échapper, qu'on ne peut oublier et qui, éventuellement, va venir aussi exacerber à son tour l'incapacité de Bix à rentrer un peu dans ce type de relation-là et qui va l'amener à son décès prématuré autour de 28 ans. Il faut dire dans un contexte où le musicien avait dès le départ aussi une santé fragile. Donc ça, c'est l'histoire de l'homme. Derrière ça, il y a l'histoire du musicien, évidemment, un homme blanc qui tombe dans la musique, qui est passionné de musique, qui veut en faire envers et contre tous, et envers et contre son père également, qui va essayer d'être entraîné ailleurs par celui-ci, mais qui finalement va toujours revenir à la musique, qui finalement va tout quitter pour la musique et qui va plonger dans cet univers-là et qui va lui apporter, étant arrivé peut-être un peu avant son temps, notamment, je le mentionnais au départ, en fait, à travers ses capacités d'improvisation, et qui, ben, en quelques années, va réussir à s'imposer, va réussir à faire sa place, va réussir à proposer des enregistrements, et au final, va réussir aussi à ne pas se faire oublier, puisque pratiquement une centaine d'années plus tard, ben, on se souvient encore de lui et de son apport à travers, entre autres, des ouvrages brillants comme celui que nous offre Chandler. Et à travers ce récit-là, je disais, on est dans le muet, ou devrais-je dire plutôt dans l'essentiellement muet, dans la mesure où il y a quelques pages où on nous amène les dialogues, donc un moment charnière, mais dans sa vie amoureuse, dans sa vie de couple, où on sent à travers les seuls mots qui sont utilisés, la césure importante qui, lui, se fait, s'impose avec, justement, sa famille. Et un moment qui est choisi, dans le fond, qui est bien choisi pour amener, justement, ces éléments de langage dans le contexte d'un récit qui, pour le reste, est entièrement muet. Et je le disais en cours de route, je pense que le terme « Paris » me semble à propos dans le contexte d'un récit comme celui-là, dans la mesure où ça aurait pu déraper. Je veux dire, on raconte la vie de quelqu'un, de sa naissance à sa mort, de façon muette. Et Chandler réussit à relever ce pari, puis parce qu'on nous le raconte avec clarté, c'est bien dirigé, c'est bien rythmé, jazz oblige, et au final, on ne s'y perd pas. On n'a pas besoin de nous lancer dans de grandes explications. On comprend la relation avec son père, on comprend la relation avec sa mère, on comprend sa relation avec la musique, on comprend son état d'emportement, de passion quand il se met à jouer, on comprend qu'à travers la musique, c'est comme ça qu'il rentre en relation dans les spectacles, dans les moments de jeu, on voit l'amusement, on saisit les personnages, on saisit l'univers dans lequel il est, et tout ça dans le contexte donc d'un récit qui est muet. Alors vraiment, un tour de force, et encore là, je pèse mes mots, un tour de force de Scott Chandler, cet album Bix, autant dans le fond, si vous êtes amateur de musique, si vous êtes amateur de jazz, et si par un plus pur hasard, vous n'avez pas encore lu cet album-là, faites-vous service, rendez-vous service, allez y jeter un œil. Pour les autres, pour les amateurs de BD qui ont envie de quelque chose d'autre, donc d'un auteur qui ose expérimenter, qui s'amuse un peu avec les possibilités qu'il lui offre, la mise en place à l'italienne, le jeu avec les cases, avec les planches, la richesse d'un récit muet, eh bien, vous allez trouver là quelque chose d'extrêmement stimulant, d'extrêmement passionnant, ça c'est clair. Et pour les autres qui sont simplement à la recherche d'un bon moment, d'un beau récit, eh bien, c'est peut-être pour moi un moment où vous pouvez découvrir, dans le fond, des possibilités offertes par la bande dessinée dans une sphère, donc celle de la biographie, dans une sphère, celle du muet, qui sont mises au service l'une de l'autre et qui en font un ouvrage qui est émouvant, qui est réussi, qui porte bien, qui se lit agréablement et qui, pour ceux qui ne connaissaient pas Bix, ben, nous font découvrir aussi cette figure de la musique jazz des années 1920, de la musique jazz en général. Donc, bref, je pense que au final, j'essaie d'englober un peu les argumentaires pour que tout le monde jette un coup d'œil à cet album-là. C'est pour vous dire à quel point je l'ai apprécié. C'est dans mes coups de cœur, c'est clair, de l'année 2020. Et donc, je vous le recommande. Sans plus d'arguments, si ce n'est de vous suggérer d'y jeter un œil. Donc, ça s'appelle Bix. C'est de Scott Chandler. C'est du côté des éditions La Pastèque. Et vraiment, c'est un coup de maître. On plonge maintenant vers les enquêtes de Scooby-Doo des éditions Pawpaw. C'est une bande dessinée de Caton. Caton qui nous avait offert, en fait, sa dernière BD remonte à 2018. C'était Les Ananas de la colère. Une bande dessinée dans laquelle elle offrait un pastiche de l'univers de série B, de l'univers de série d'enquête. On se retrouvait, vous vous en rappelez peut-être, en plein quartier hawaïen de Trois-Rivières avec une histoire de meurtre, une enquête qui devait être faite, mais qui ne l'était pas adéquatement par les policiers. Et donc, quelqu'un devait monter, s'approprier cette enquête et la résoudre. Alors, c'est ce qu'on retrouvait dans Les Ananas de la colère. Et donc, cette ambiance, cet esprit du pastiche, eh bien, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi fort bien dans ce Scooby-Doo, où Caton, donc, nous offre à nouveau, dans le fond, une parodie de récits d'enquête, mais cette fois-ci, dans le contexte de courts récits, de courtes histoires, des histoires qui sont aussi éminemment absurdes, que ce soit dans le ton, que ce soit dans la résolution. Donc, un titre, Les Enquêtes de Scooby-Doo, qui fait référence évidemment à Scooby-Doo aussi. Donc, il y a évidemment une filiation directe. Et ici, on retient entre autres de Scooby-Doo ben, l'idée du chien, évidemment, l'idée d'un partenariat entre un homme et un animal dans la recherche de résolution à des crimes un peu particuliers et le reste. Et également, cette importance de la surprise, des révélations dernière minute qu'on retrouve aussi dans quelques-uns des récits. Également, je parlais d'un petit objet de récit court, de petit objet en termes de taille. Évidemment, on est dans quelque chose qui va nous référer peut-être plus à des formats comme les magazines Archie, par exemple, qu'on retrouvait et qu'on retrouve encore, je pense, dans ce format-là. Des parallèlement, ben, des courtes histoires à l'intérieur de ça, donc vraiment un peu façon magazine, des courtes histoires un brin alambiquées, mais toujours maîtrisées, que nous propose Caton. Au départ, en fait, si je ne me trompe pas, c'était un fanzine, Les Enquêtes de Scooby-Doo, et éventuellement, c'est devenu donc la bande dessinée qu'on retrouve. Donc, le personnage central, c'est un type qui est passionné d'enquêtes policières, qui souhaite résoudre des enquêtes policières et qui, essentiellement, va peut-être aussi s'inventer des enquêtes policières, parfois répondant à l'appel de citoyens, parfois imposant un appel de la part du citoyen aussi, et toujours accompagné d'un chien qui, finalement, participe plus aux enquêtes dans l'esprit de, entre guillemets, l'enquêteur, plutôt que dans le contexte réel de l'histoire. Donc, des courtes histoires qui se développent très, très rapidement et des enquêtes qui, au bout du compte, vont peut-être un peu nulle part, mais ils vont de façon joyeuse, de façon, je le redis, absurde, de façon sympathique. C'est le genre de récit qu'on ne peut pas nécessairement facilement s'enlever un petit sourire de la figure. C'est pas nécessairement une bande dessinée qui va nous faire rire aux éclats, mais on a toujours le sourire au bec quand on lit les pages, quand on tourne, quand on découvre un peu l'univers absurde dans lequel nous convie Caton avec ses courts récits. Et donc, dans la mise en page, dans l'ambiance, dans le trait, donc on sent d'un côté, bon, peut-être une certaine urgence dans la manière dont on approche le dessin, qu'on sent aussi peut-être dans les courts récits, donc ça déboule quand même assez rapidement. On s'en va un peu partout, on nous amène dans différentes enquêtes, mais toujours, dans le fond, avec un côté absurde et toujours avec le côté aussi imperturbable de son personnage central qui est complètement décalé, si on peut dire, par rapport à ce qui se passe autour de lui, par rapport à son incompétence peut-être aussi au bout du compte. Et donc, ça ajoute évidemment à l'humour de l'ensemble. J'aurais tendance à dire, en fait, si vous aimez ce type de pastiche-là, vous voulez voir comment Caton va se frotter à nouveau aux enquêtes policières, mais dans un cadre qui est quand même différent, très différent des Ananas de la colère, ben c'est intéressant. Si vous avez apprécié les Ananas de la colère, vous avez envie de voir comment l'auteur se défend dans le même genre, mais avec une autre approche complètement, c'est intéressant aussi. Ou si vous avez envie simplement de passer un beau petit moment avec un joyeux délire et avoir le sourire cloué au bec en le lisant, eh ben pourquoi pas. Donc, ces enquêtes de Scooby-Doo chez Pawpaw.
Et voilà qui conclut cette édition de La vie en BD. C'était Raymond Poirier au micro. Je le redis, à chaque fois, toujours un plaisir d'être avec vous et on se dit à la semaine prochaine.